À voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Jean-Michel Ribes. Ce soir, avoir 20 ans au Théâtre du Rond-Point.
Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour Jérôme Clément.
Je n'ai peur de rien, mais je m'angoisse pour tout. Vous reconnaissez cette phrase ?
Oui, je crois que je l'ai écrite quelque part. Et c'est la réalité. J'ai pas peur. En général, on voit le danger. Et quand le danger est là, j'ai pas peur. Par contre, le danger qu'on ne voit pas, qui s'infiltre, qui est une ambiance, qui est une crainte, là, ça m'angoisse. Et vraiment, ça m'angoisse.
Et quand vous êtes dans votre bureau où nous sommes aujourd'hui, je précise que d'habitude, nous faisons les enregistrements chez la personne qui parle. Et cette fois-ci, on l'a faite au bureau, c'est-à-dire au Théâtre du Rond-Point, où vous passez l'essentiel de votre vie.
Oui, alors, plus.
Combien d'heures par jour ?
Au début, j'étais bien là, presque 16-18 heures.
Bon, alors c'est vraiment chez vous ici.
Oui, oui.
Et ici, vous êtes angoissé ?
Non, j'essaye de ne pas l'être. C'est une protection parce que c'est que de l'imaginaire, c'est que de l'invention, c'est que de la création. Et dans ce cas-là, je m'y trouve bien.
Et avant les premières ?
Non plus. C'est une petite peur, mais agréable. C'est parce qu'on a beaucoup travaillé à quelque chose, on a envie de voir comment ça va s'épanouir. Mais en général, tout ce qui est imaginaire, c'est beaucoup moins terrifiant que la réalité.
On est heureux pour vous parce que comme vous y avez passé 20 ans, 20 ans, c'est la durée pendant laquelle vous avez dirigé ce théâtre. C'est arrivé en 2001, nous sommes en 2021, ça sera bientôt le 20e anniversaire. Alors, décrivez-nous maintenant ce théâtre.
Moi, j'ai voulu que ce soit un espace de vie et d'envie. C'est-à-dire, j'ai pas voulu que ce soit uniquement un espace de représentation culturelle, de cette culture étouffante. J'ai voulu que les gens respirent, que ce soit un lieu d'audace joyeuse. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à Actes Sud de venir, mon éditeur, de venir ici faire une librairie. J'ai installé un restaurant dont nous sommes partenaires pour que ça reste quand même aussi le rond-point dans le restaurant. J'ai voulu qu'il y ait 3 salles, j'en ai construit une, en donnant le nom de gens que j'aime, la salle Topor, la salle Jean Tardieu, oui. J'ai bien connu, et puis la grande salle Renaud Barrault, parce qu'ils sont quand même à l'origine de ce théâtre. Mais j'ai voulu que ce soit voilà un lieu qui soit aéré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses fortes qui soient dites. Et j'ai voulu que ce soit, si vous voulez, aussi un lieu et d'accueil et de forum. C'est-à-dire que sur scène, la fiction réinvente le monde et dit le monde mieux que la réalité, mais aussi les gens qui habitent dans la réalité peuvent y venir. On a fait des tas de débats de société, des tas de débats d'idées, et ça c'est le côté forum.
Il faut dire pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, la plupart, beaucoup connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, que le Théâtre du Rond-Point, il est en bas des Champs-Élysées. C'était autrefois un cirque.
Alors, c'est assez beau, ce qu'on appelle, c'était, vous savez, un lieu où, énorme où on présentait les peintres sur les murs, accrochait les manches toiles. C'est comme une agence de voyage. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissaient pas les pyramides, on leur montrait, les gens qui n'avaient pas vu la bataille d'Iéna, on leur montrait comment c'était passé. Oui.
Ça, c'est au début du 19e siècle.
Après, en effet, c'est devenu un cirque équestre.
Le bâtiment a une forme circulaire.
Oui.
Il est très grand, il est très beau. C'est une architecture typique de celle qu'on voit sur les Champs-Élysées en bas, quand on descend les Champs-Élysées.
Il y a une grande période où il était quand même patinoire. C'était le Palais des Glaces et les gens ont patiné ici jusqu'en 1981.
Avant qu'ils prennent une vocation théâtrale, avec Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.
Oui, ça a été d'ailleurs assez amusant parce que Jean-Louis avait fait construire une espèce de charpente par des charpentiers de marine, d'ailleurs, qu'il avait pour tenir son chapiteau dans la gare du musée d'Orsay qu'on commençait à construire le musée. Et tout d'un coup, cette charpente à laquelle il tenait beaucoup a exactement correspondu aux dimensions ici de la coupole. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti. Mais il faut bien savoir que quand Jean-Louis Renaud est arrivé ici, il y avait juste des planches. Enfin, c'était pas du tout équipé. C'était un théâtre très précaire.
Ils sont restés quand même assez longtemps, tous les deux.
Ils sont restés 10 ans.
Ils sont restés 10 ans, pendant lesquels ils ont fait des créations. Et bon, avec leur réputation, leur nom, le Théâtre du Rond-Point a pris sa vocation théâtrale avec eux.
Oui.
Voilà. Alors après, il y a eu une espèce de blanc, enfin en tout cas une période un petit peu moins, disons, glorieuse. On passera discrètement sur cette période. Et là-dessus, en 2001, il y a l'appel d'offres pour savoir qui va prendre la direction du théâtre et ce qu'on va en faire.
C'est-à-dire que, en vérité, un jour, vous savez, j'avais à la fin de l'ère Maréchal, j'avais monté une pièce de Grimbert qui s'appelait, qui était une pièce extrêmement émouvante sur son père, etc. Ça s'appelait Je rêvais peut-être avec Arditi au Mans, etc. Et Maréchal, et on avait fait un très gros succès. Ça a été vraiment le gros et seul succès qui avait. Donc j'étais habitué à cet endroit. Et donc des années après, un jour, je suis passé devant par hasard et j'ai vu qu'il était en déshérence, fermé, qui coulait, qu'il n'y avait personne dedans. Et là, je me suis dit tout d'un coup, mais pourquoi ? Ça allait devenir, il y avait une proposition alléchante financièrement, ça allait devenir le showroom des couturiers de l'avenue Montaigne. Je me suis dit, c'est pas possible. C'était au moment où Delannoy faisait sa campagne électorale pour devenir maire de Paris. Et là, tout d'un coup, j'ai été voir, je leur ai dit, écoutez, il faut sauver ce théâtre. Et pour une fois qu'il peut y avoir un théâtre, un seul théâtre, dédié aux auteurs vivants, il faut le faire. Et j'ai développé cet argument, tout en sachant très bien que ça avait peu de chance. Je me suis efforcé à ce que la programmation soit désirante. Désirante, ou peut-être au mépris de certaines règles d'une culture absolument droite, des gens qui savent, etc. J'ai essayé de déchapelliser. Je me suis dit, il y a des talents partout, dans tous les domaines du théâtre. Et j'ai voulu aussi que l'humour et le rire ne soient pas considérés comme souvent comme un crachat sur l'art.
Oui, alors ça, on va beaucoup en parler du rire, parce que d'une certaine façon, c'est votre marque de fabrique. Mais pour rester encore sur le théâtre, il y a plusieurs salles. Alors, il y a la grande salle Renaud Barrault, en hommage à ceux qui ont ouvert le théâtre ici, après la période de Palais des Glaces. Et puis, il y a deux autres noms, une salle moyenne avec Tardieu et une salle plus petite avec Topor. Et chaque salle, d'ailleurs, vous allez dire pourquoi vous avez choisi ces noms. Et puis aussi, quelle est la destination, comment vous articulez les spectacles en fonction des différentes salles?
Ah, il y a une évidence, je dirais presque géographique, c'est-à-dire une salle de 800 places, c'est plutôt fait pour des spectacles un peu plus charnus, avec un grand nombre de comédiens, ou avec, disons, des décors, etc., et des textes très forts, etc. Enfin, très forts, c'est idiot parce qu'ils sont forts dans les trois salles. Mais disons, c'est plus opératique. La salle Jean Tardieu, c'est une salle très agréable, où on fait là toutes les créations d'auteurs qui nous envoient leurs textes ou de découvertes, mais dans une construction quand même dramatique ou dans une production théâtrale, c'est-à-dire qu'on y met des décors, etc.
Jean Tardieu, poète que vous avez connu,
oui,
et avec
oui,
qui vous avez travaillé.
Oui, et que j'aime beaucoup. Et puis, la salle Topor, c'est le lieu de, c'est le grenier à rêves, c'est le lieu de tentative, c'est le lieu de la fantaisie totale. Et j'ai pensé que donner le nom de Topor, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, et qui était presque un frère, lui porterait bonheur.
Et vous avez choisi les spectacles, les salles, en fonction donc de ce qui arrive, parce que l'essentiel, enfin l'essence même du théâtre, c'est le théâtre vivant. Il n'y a que des auteurs vivants.
Et il y a même eu des auteurs vivants qui sont morts pendant qu'on les exploitait ici, pendant qu'on les exploitait ici, mais on n'a quand même pas arrêté. Je parle de Dubillard, par exemple.
Ah oui, oui.
Mais non, c'est amusant parce que cette idée d'auteur vivant, à l'époque, quand j'ai commencé à la fin du siècle dernier, au début de celui-là, c'était pas considéré. Je veux dire que les auteurs vivants, il y en avait peu, ils faisaient chier tout le monde et personne ne les connaissait. Donc c'était pas, disons, un carburant pour faire marcher une grande maison comme celle-là. Moi, j'étais persuadé du contraire.
Il y a quand même eu Coltès à
Amandier. Oui, il y a eu Coltès. Et puis Coltès. Vous savez que quand j'ai pris, moi, ce théâtre, 92% de la programmation des théâtres publics étaient des auteurs classiques ou morts, 92%. Et les 8% qui restaient, en général, étaient joués dans une minuscule salle, sous l'escalier ou dans le hall. Donc, c'était pas du tout en vogue. Mais moi, je pensais qu'il était urgent de redonner un espace pour ces gens qui pouvaient écrire pour le théâtre. Parce que si on leur donne pas d'espace, il n'y a plus d'écrivains pour le théâtre. Et quand même, il fallait aujourd'hui que ce siècle et ce temps aient une résonance à travers l'écriture dramatique. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que les gens étaient curieux de ça, avaient envie de ça, aimaient ça. On a eu un nombre de courriers incroyables pour nous dire combien les gens étaient satisfaits qu'on leur raconte aujourd'hui par des gens d'aujourd'hui.
Alors comment vous faites? Parce que j'imagine que il y a énormément de pièces qui vous sont envoyées, vous choisissez, et puis certaines vous les commandez ou à des auteurs que vous connaissez, que vous aimez bien, que vous appréciez, ceux que vous écrivez vous-même. Comment on fait pour choisir quand on n'a pas la notoriété, le rec-